RFI.
L'atelier des médias.
Salut, c'est Ziad Malouf. Celles et ceux qui nous écoutent régulièrement ont peut-être remarqué une certaine tendance dans les émissions récentes. Les mots données, algorithmes, robots reviennent plus qu'à l'accoutumée. Bien entendu, je suis le premier responsable de ce mouvement éditorial. Le premier, mais pas le seul. Ces derniers mois, les ouvrages qui explorent les possibles, les frontières, les dangers du monde digital se multiplient. Ils sont pour beaucoup le fruit des doutes nés des révélations d'Edward Snowden sur la collecte massive de données. Ils sont aussi les symptômes d'un désenchantement et d'une fatigue de nombre d'observateurs quant à l'évolution de notre monde. Le temps de la reprise en main est clairement venu. Les penseurs et théoriciens sont là pour accompagner les citoyens et leur donner les outils d'analyse et de compréhension des phénomènes en jeu. Ce sont ces penseurs, ces observateurs, ces théoriciens que nous recevons chaque semaine pour mieux comprendre notre temps. Nous vivons une époque fascinante et inquiétante, à la fois fascinante et inquiétante, deux épithètes qui qualifient parfaitement la pratique que nous allons explorer aujourd'hui avec nos invités, le quantified self, la quantification personnelle, l'automesure de l'activité et de l'environnement immédiat par des individus dont le nombre va sans cesse croissant.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
L'idée vraiment maîtresse, c'est de centraliser vos données. Et la contrepartie de cette centralisation, c'est nous, de vous guider et de vous accompagner dans une démarche de mieux vivre.
Il y a plusieurs utilisations. On peut les mettre autour d'une bouteille pour voir la quantité d'eau que l'on boit, sur une machine à café pour voir le nombre de café que l'on prend, sur des boîtes de médicaments aussi pour voir si quelqu'un qui doit prendre ses médicaments les prend bien, sur des brosses à dents aussi, et sous son matelas pour avoir le rythme de sommeil. Mais enfin, je suis pas dupe, hein. Si Santi me pousse des données, il est complètement au courant de ce que je fais. Je suppose même qu'il doit vendre peut-être des données pour voir les comportements typiques de ceux qui les vendent, etc. Bon, enfin, savoir quelle est la température dans mon frigo, combien de fois je rentre et je sors, finalement, ça m'intéresse pas beaucoup de les garder secrètes.
RFI.
Bonjour Camille Jiquel.
Bonjour.
Bonjour Pierre Guyot.
Bonjour.
Vous êtes tous deux journalistes et vous êtes aussi les auteurs de Quantified Self, les apprentis sorciers du mois connecté paru en juillet dernier. D'abord, comment peut-on définir ce phénomène, le Quantified Self, Pierre?
Eh bien, le quantified self, donc en bon français, la quantification de soi, c'est le fait de collecter des données sur soi-même, de les analyser pour essayer d'en trouver du sens et éventuellement de les partager sur des réseaux sociaux ou sur des communautés en ligne.
Et pourquoi c'est devenu un phénomène ?
Tout simplement, un premier facteur intéressant, c'est tout simplement la démocratisation des smartphones, avec l'intégration dans ceci de myriades de capteurs qui permettent de mesurer le sommeil, une activité sportive plein d'autres facteurs dont on va parler.
Ce que vous expliquez dans le livre, c'est que l'auto-mesure, c'est comme ça qu'on peut appeler le fait de se mesurer, de mesurer sa vie, etc., son activité, c'est quelque chose qui a toujours existé, simplement, depuis 10 ans, à peu près, ça a totalement explosé, les possibles de l'auto-mesure ont explosé, et toutes les applications sont venues avec, et ça continue à prospérer.
Exactement, comme vous le dites, ça a été un peu consubstantiel à l'être humain d'essayer de donner de l'ordre dans sa vie et d'essayer à partir du hasard de sa vie d'essayer de retrouver des petits éléments de sens pour en vue de s'améliorer. Donc
vous donnez des exemples historiques, hein,
Benjamin Franklin par exemple, oui, voilà, faisait une liste, avait un tableau avec une liste de 13 vertus et tous les jours à la fin de sa journée il cochait tout simplement, il disait si telle ou telle vertu il les avait bien accomplies au cours de sa journée. Donc ça permet au fil du temps de voir s'il y a une amélioration ou pas, où est-ce que je peux travailler sur moi-même, etc.
Et ça commence même avant, puisque un des préceptes de la philosophie grecque, c'est connais-toi toi-même.
Exactement.
Tout simplement.
Connais-toi toi-même. Donc c'est le principe en effet de Socrate, et qui a d'ailleurs été repris par le mouvement du Quantified Self tel qu'il est né aux États-Unis en 2007 avec la devise connaissez-vous vous-même par les nombres. Donc on est parfaitement dans cette ligne en effet.
Camille, tu veux ajouter quelque chose?
Bah, peut-être que ce phénomène, le fait de voir que de plus en plus de personnes se quantifient quotidiennement, c'est aussi lié au fait que l'offre c'est multiplié. On parle, donc Pierre parlait des applications natives dans les smartphones ou autres, mais en fait les entreprises aussi très vite ont saisi en fait le potentiel que ça pouvait avoir pour connaître encore mieux finalement les gens et notamment leurs clients, et donc forcément elles ont multiplié leurs offres. Et tout simplement le Nike, en fait Nike Plus,
donc
on parle
Nike
souvent.
Qui est à l'origine un fabricant de matériel sportif, particulièrement de chaussures, qui est maintenant devenu aussi un fabricant d'applications liées au sport.
Et pour eux, c'est tout bénef entre guillemets, puisque ils connaissent les habitudes des sportifs qui utilisent du coup leur application et potentiellement leur matériel. Ils savent le nombre de foulées, ils savent comment est-ce qu'ils courent, ils savent les parcours, ils savent tellement de choses en fait comme ça sur leurs clients que c'est plus facile pour eux ensuite de cibler leur publicité notamment. Et les clients donnent eux-mêmes toutes les informations dont l'entreprise a besoin.
Les utilisateurs de téléphones intelligents, de smartphones, sont presque tous conscients de ce phénomène, simplement parce que beaucoup de smartphones viennent avec des applications liées à la quantification de soi. Les téléphones Apple, par exemple, maintenant ont carrément des applications santé qui viennent quand on achète le téléphone, qu'on ne peut même pas enlever. Mais qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes d'usage aujourd'hui, ces pratiques du Quantified Self?
En volume, on parlait de Nike tout simplement. Je crois que les communautés Nike Plus en tout doivent représenter à peu près 30 millions de personnes. Alors évidemment, plus ou moins actives, toujours des chiffres qui sont sujets à caution. Mais par exemple, en France, l'application payante la plus téléchargée sur iOS cet été, c'est Runtastic, une application de Quantified Self pour la course.
Donc là, on parle de personnes qui vont parfois tester. On ne sait pas si c'est forcément des personnes qui vont s'inscrire dans la durée dans cet usage-là. D'ailleurs, finalement, le taux d'abandon est relativement élevé au final.
C'est-à-dire que beaucoup de personnes commencent à utiliser ces applications et arrêtent à un certain moment, notamment parce qu'il y a un côté répétitif. C'est-à-dire que quand on court et qu'on fait toujours le même trajet, à un moment, on n'a plus besoin d'utiliser l'application pour savoir combien de temps on a couru. Ou tout simplement, quand on marche au quotidien, il y a des petits capteurs qui accompagnent la marche et qui disent combien on a fait de pas. Dès qu'on fait à peu près la même chose chaque jour, on n'a plus besoin de ces capteurs pour le savoir, c'est ça?
C'est ça. Au bout de 3 mois, souvent, les gens abandonnent un petit peu l'usage. Donc là, on parle vraiment de l'individu lambda, entre guillemets, et pour la communauté Quantified Self, donc l'association, plus ou moins Quantified Self, qui a des groupes un peu partout dans le monde, là, ça regroupe environ 35 000 personnes dans le monde. Donc là, c'est par contre des personnes beaucoup plus assidues et qui ont une vraie réflexion, du coup, sur l'usage de ces nouveaux capteurs, sur l'automesure en elle-même.
Mais pour en venir au taux d'abandon, c'est vrai que c'est quand même une des promesses qui pour l'instant est un petit peu déçue. On n'a pas de chiffres là-dessus, mais l'impression qui se dégage, c'est même que, enfin, le Quantified Self, c'est une véritable promesse d'accompagnement, de développement personnel. Donc si je vais courir tous les 2 jours et que je me mesure, normalement je suis pas censé me lasser de mon application au bout de 3 mois. Je suis censé arriver à ma performance optimale et maximale tout au long de ma vie, et ça pour la course ou pour autre chose. Et pourtant, alors ça peut être dû à plusieurs raisons, le design de service, c'est-à-dire l'ergonomie de l'application en elle-même qui n'est pas suffisamment bonne pour qu'on ne l'abandonne pas.
Ou même tout simplement la robustesse des téléphones et des batteries, la longueur de vie des batteries, parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui des millions et des millions d'applications possibles, mais les objets téléphones sont quand même assez limités en termes de captation du réseau, en termes aussi de durée de vie, et parfois c'est pas pratique d'aller courir avec son téléphone quand on sait qu'on va devoir l'utiliser tout le reste de la journée et qu'on risque d'employer une grande partie de la batterie.
Ah bah ça certainement, si vous commencez votre journée par un jogging d'une trentaine de minutes avec donc l'application lancée, la géolocalisation qui fonctionne au même moment et le wifi en marche, vous pouvez être certain que...
Et même si on est en train d'écouter de la musique,
et
toujours
en écoutant de la musique, la moitié de votre batterie part en fumée en 30 minutes.
La forme la plus connue, la plus évidente du Quantified Self, c'est bien sûr celle du jogger qui court avec un téléphone autour du bras, mais il y a des centaines d'autres applications. Raphaël Constant s'est rendu chez un couple qui utilise Moser. Moser, c'est un objet connecté inventé par Rafi Aladjan, qui est un des pionniers français du Quantified Self. Nous sommes chez Jean-François et Marie-Laure, un couple parisien, donc propriétaire d'une Moser. Il s'agit en gros d'une matrice capable de gérer des dizaines de capteurs intelligents dans la maison.
j'ai eu un problème en rentrant de vacances une année, mon frigo avait disjoncté, je vous passe les détails, agréable, et donc je me suis dit que si j'avais un objet connecté dans mon frigo qui me donnait la température, ça me permettrait d'éviter cela. Alors quand j'ai acheté la Sensibowser, je me suis aperçu qu'on pouvait en mettre sur la porte pour voir quand ça s'ouvrait, ça se fermait, et puis il y a plusieurs utilisations, on peut les mettre autour d'une bouteille pour voir la quantité d'eau que l'on boit, sur une machine à café pour voir l'ordre de café que l'on prend, sur des boîtes de médicaments aussi pour voir si quelqu'un qui doit prendre ses médicaments les prend bien, sur des brosses à dents aussi.
Donc on va aller voir la Moser qui est installée dans votre salon à côté de la télé.
L'objet est mignon, oui. Moi j'avoue que je trouve ça assez design. On dirait une petite barbe à mama blanche avec sa petite bouche rouge. Voilà.
C'est une Moser qui a la forme d'une poupée russe qui se met sur la box internet et qui est connectée à plusieurs objets connectés dans la maison dont on programme l'utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisation est très différente d'un petit cookie à l'autre. C'est le nom de le petit objet connecté qui a une forme de langue de chat, qui est petit avec une petite pile et qu'on met absolument partout. Alors il faut, avant de se quantifier soi-même, il faut se programmer soi-même. C'est-à-dire qu'il y a quand même une première phase de paramétrage, c'est-à-dire qu'on met la Moser sur la box internet, donc ça c'est assez simple avec une application qu'on télécharge sur son smartphone ou son iPad. Et après il faut affecter chaque objet connecté, chaque cookie, à une application. Et donc là il y a des noms sur les cookies et on les affecte à une application. Ensuite on sélectionne les modes d'alarme, soit par mail c'est gratuit, soit par SMS, je crois qu'on a une centaine de SMS gratuit, et ensuite chaque SMS supplémentaire qui sera envoyé sera payant, on peut acheter des lots de SMS. Donc par exemple si on mesure la température, je reviens à mon frigo et à mon problème, j'ai programmé la température entre moins 5 je crois et 7 degrés pour voir si j'étais toujours dans cette plage là, et il me prévient dès lors que ça sort de cette plage. Après j'ai un dashboard, un tableau de bord dans lequel je peux voir si les piles sont bonnes et l'ensemble des éléments, etc. Mais c'est vrai que pour chez moi aujourd'hui, j'ai simplement la porte d'entrée et le réfrigérateur.
Est-ce que vous pouvez me montrer comment fonctionne un cookie, par exemple ?
Alors, par exemple, attendez, je vais chercher mon iPad. Et donc, vous voyez le petit cookie sur la porte d'entrée, là, qui ressemble à une langue de chat. Et donc, quand on va ouvrir la porte et la refermer, on a un message sur la tablette qui arrive en disant que la Pocket Moser a détecté une entrée et une sortie.
Et donc vous avez l'heure exacte du claquement de la porte en fait.
J'ai l'heure exacte et regardez, on vient de l'ouvrir. Et j'ai, si je viens
sur votre tablette,
le Sensibowser, là je viens, un mouvement a été détecté à la porte à 19h13 là. Et donc quand je viens dessus, je vois effectivement sur ma grande journée, mon grand rond, qu'on a eu une détection à 19h10, 19h14, 5 mouvements, puisqu'on l'a fait plusieurs fois.
Donc finalement, qu'est-ce que ça vous apporte de connaître le nombre de fois que la porte a été ouverte et
là,
fermée?
Là, strictement rien. Ce qui est intéressant pour moi, c'est quand je ne suis pas là, bah, je détecte si quelqu'un ouvre la porte. Donc c'est finalement une anti-intrusion. Bon, ça peut être sympa. Quand quelqu'un vient faire le ménage, par exemple, chez moi, bah, je vois si il est rentré, s'il est sorti à l'heure, etc. Donc c'est pas tant pour avoir les horaires, mais ça me donne des choses. Une application très simple aussi, si je dois appeler ma femme qui travaille, je l'appelle pas quand elle est dans les transports ou ailleurs, je sais qu'elle est rentrée, je laisse et je peux appeler parce que je sais qu'elle est tranquille.
Donc vous surveillez votre femme en fait?
Non, je ne la dérange pas. Je ne la dérange pas, j'améliore sa qualité
C'est
de vie.
C'est une bonne intention.
Marie-Laure, est-ce que vous utilisez la Moser?
Alors non, moi je n'utilise pas la Moser. Je suis beaucoup moins experte dans ce domaine et je suis également beaucoup plus réservée quant à son utilisation parce que je trouve qu'elle crée des besoins dont on n'a pas vraiment l'utilité, comme l'ouverture de la porte et la fermeture, à quelle heure on rentre, à quelle heure on sort. Alors après, quand on a des enfants, oui, pourquoi pas? Et encore, je trouve que du coup, on les prive un peu de leur liberté. On est très, on ferait vraiment de l'introspection sur sur leur attitude, sur leur espace de liberté.
Alors du point de vue des données personnelles que vous transmettez du coup à la Moser, est-ce que vous craignez pour votre vie privée?
Alors pas spécialement, mais je ne l'ai pas mis sous mon lit, par exemple, pour voir mon cycle de sommeil ou pour voir finalement ce qui se passait dedans. Mais enfin, je ne suis pas dupe, hein. Si Santi me pousse des données, il est complètement au courant de ce que je fais. Je suppose même qu'il doit vendre peut-être des données pour voir les comportements typiques de ceux qui les vendent, etc. Bon, enfin, savoir quelle est la température dans mon frigo, combien de fois je rentre et je sors, finalement, ça m'intéresse pas beaucoup de les garder secrètes.
C'était un reportage chez Jean-François et Marie-Laure, un couple parisien propriétaire d'une Moser, cette matrice capable de gérer des dizaines de capteurs intelligents à la maison. Une réaction déjà, on a entendu beaucoup de choses dans ce reportage, ça pose beaucoup de questions. On est peut-être à la frontière hein, d'ailleurs des objets connectés, du quantified self, de la quantification de soi. Il y a plein d'applications liées à la Moser qui permettent de se quantifier, de savoir ce qui se passe dans sa maison. Pierre Guillot, Camille Jiquel.
C'est intéressant parce que c'est en effet, on va dire, l'étape d'après qui est celle de l'Internet des objets et qui est même déjà l'étape presque d'aujourd'hui. Et c'est très intéressant de le voir, voilà, avoir une connaissance hyper fine de le nombre de fois où il ouvre la porte de son frigo, etc. Et puis finalement, on lui demande, mais à quoi ça vous sert? Je ne sais pas vraiment. Mais bon, c'est
voilà, c'était sa porte d'entrée, hein, qui ouvrait.
Mais on peut imaginer qu'il le fasse avec son frigo aussi. Oui, c'est pratique, en effet. On a l'impression d'être dans un scénario de science-fiction où, on peut imaginer qu'on passerait toute la journée avec une sorte de tableau de bord qui nous fasse défiler plein de chiffres. L'intérêt, c'est de savoir en extirper du sens, évidemment. C'est là tout l'enjeu.
Il y a un projet pilote qui est en train de se développer à New York, qui est un quartier, en fait, qui va littéralement être conçu en entier, qui s'appelle Hudson Yards. Et c'est vrai que ce quartier, bon, tous les bâtiments vont être équipés
de
différents capteurs. Et en fait, aussi bien les habitants que les personnes qui viendront travailler là-bas, on leur proposera, ce sera quand même sur la base du volontariat, de partager leurs données auto-mesurées, du coup, donc quantifiées quotidiennement, pour essayer de les croiser avec les données issues des bâtiments, pour essayer justement de créer un mieux vivre ensemble, essayer de mieux comprendre encore les gens, essayer de mieux comprendre les flux, par exemple, pour justement en fait redéfinir un peu tout l'espace à partir des données.
Alors bien évidemment ça pose des questions de vie privée, ça pose des questions de gestion de ces données, ça pose aussi des questions sur ce qu'on peut en faire, le type de vérité qu'on peut sortir de tout ça, on va en parler. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est les grands domaines où on utilise ces outils aujourd'hui ?
Okay. Le premier, on pourrait dire que c'est la santé et le bien-être, on va dire, très généralement. Donc, la santé, ça peut aller assez loin.
Il y a des gens qui quantifient leur humeur. Il y a énormément d'applications, par exemple, qui demandent à l'utilisateur en permanence comment tu te sens, etc. Et du coup, on va essayer de savoir à quel moment il se sent bien, à quel moment il se sent plus mal, etc. C'est ça?
Exactement. Donc, c'est une application qui vous demande toutes les heures comment vous vous sentez. Et puis, l'idée, c'est dans un deuxième temps de croiser ces données avec d'autres. Donc c'est pas uniquement de savoir comment mon humeur va évoluer, mais c'est si je rentre exactement ce que j'ai mangé, quel type de transport j'ai pris, où je suis, etc. On va pouvoir déterminer, je sais que le mercredi à 16h, je suis souvent stressé. Une des utilisations la plus fréquente, c'est celle-ci, celle du développement personnel et du développement du bien-être, en trouvant des petits facteurs d'explication. Après, il y a des choses qui sont, on va dire, un peu plus gadgets, mais qui finalement peuvent apporter quelque chose. Un maillot de bain connecté, par exemple, qui, quand vous êtes sur la plage, vous indique que vous êtes au soleil depuis tant de temps, vous avez capté tant de rayons UV et ça va commencer à être dangereux à partir de telle date. Donc ça, c'est une application hyper concrète, mais au final, qui, si on fait confiance dans la mesure de la donnée qui est faite...
Autre application concrète que je trouve assez séduisante, la fourchette connectée.
Oui, la fourchette connectée, donc on peut penser à Happy Fork. Quand on le dit comme ça, on pourrait se dire que ça ne sert à rien, sauf que, détrompez-vous. En fait, cette fourchette, elle est capable de savoir la vitesse à laquelle vous mangez. Alors là encore, ça peut paraître bête, mais finalement, pour des personnes âgées, par exemple, qui souvent peuvent avoir tendance à manger particulièrement vite.
Ou des personnes jeunes aussi. Il n'y a pas d'âge pour manger trop vite.
Mais c'est vrai que ça avait été particulièrement recommandé pour des personnes âgées. Mais en fait, c'est simplement que la fourchette se met à clignoter si elle voit que vous êtes en train de manger beaucoup trop rapidement.
On comprend que c'est pratiquement infini le nombre de domaines qu'on va pouvoir ou qu'on peut même aujourd'hui monitorer, suivre, sous forme de tableaux, de graphiques, etc. autour de son quotidien.
Exactement. Les premières applications donc sont venues ou dans le sport, parce que là il y a une recherche de performance, ou dans la santé et le bien-être. Mais en effet, on le voit même avec l'exemple de la Moser et de la domotique connectée, de l'internet des objets, la prétention du quantified self et le discours du quantified self, c'est reprenez le contrôle de votre vie. Donc
en fait, le simple fait de commencer à se quantifier, ça initie un changement dans le comportement. Et c'est ça qui est recherché, en fait, la plupart du temps. Par exemple, si je commence à me quantifier à chaque fois que je cours, eh ben, forcément, je vais me dire, ah bah mince, tel jour, j'ai couru moins vite que tel autre. Alors même qu'on s'en rend pas forcément compte si on met pas de chiffres dessus.
Il nous reste plein de choses à évoquer, notamment le côté social. On en a pas encore parlé. Partager ses informations avec ses amis, avec le monde entier via les réseaux sociaux. Mais on va marquer d'abord une courte pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Vous écoutez l'atelier des médias. Le Quantified Self annonce un nouveau mois, un mois connecté aux autres, un mois de données, un mois marchandisable qui s'insère dans des nouveaux collectifs car la donnée a une valeur d'échange quantifiable. E-santé, big data, quête transhumaniste mêlant crainte et espérance. Quelle est cette nouvelle histoire que nous raconte le Quantified Self sous ce déluge de données numériques? Ces mots sont de Camille Jiquel et Pierre Guyot, co-auteurs de Quantified Self, les apprentis sorciers du mois connecté. Ils viennent de consacrer ce petit livre aux pratiques de l'automesure, du Quantified Self. Ils sont nos invités aujourd'hui. Dans une vingtaine de minutes, nous retrouvons Marie-Catherine Beuth qui fait sa rentrée dans l'atelier.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Pierre Guyot, Camille Jiquel, on a un petit peu expliqué ce qu'est le Quantified Self en donnant des exemples dans la première partie. On peut peut-être un peu revenir sur l'histoire de ce mouvement. Il y a d'abord un mouvement de pensée qui a été structuré autour des années 2007, notamment par des contributeurs du magazine Wired, donc qui ont nommé ce mouvement, c'est ça, le Quantified Self?
Exactement, c'est le mot même, Quantified Self, est né de deux cofondateurs de la revue Wired, donc la grande revue de l'économie numérique américaine. Donc c'était au début Kevin Kelly qui recevait quelques personnes chez lui. Ils étaient une sorte de trentaine, une sorte de club, comme ça se fait beaucoup dans les milieux numériques californiens depuis la fin du XXe siècle. Donc ils étaient une trentaine et ils échangeaient sur leurs pratiques. Alors voilà, moi j'ai mesuré, moi je suis diabétique, donc je mesure comme ça mon diabète. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux le mesurer? Ah oui, mais tu as pensé à le croiser avec telle autre donnée. Donc voilà, à la base c'était un petit club d'échange, etc. qui petit à petit s'est structuré sous l'impulsion toujours de ces deux cofondateurs qui ne sont pas rien dans le monde du numérique et qui sont issus de l'utopie, ce qu'on appelle l'utopie californienne du numérique, avec le numérique va changer le monde, etc. Donc il y a vraiment cette promesse dès le début de dire en se mesurant et en mêlant ça à la puissance de stockage du cloud qui va bientôt démarrer, avec la puissance des capteurs qui vont se démocratiser, on va pouvoir arriver dans un monde où les gens pourront reprendre le contrôle d'eux-mêmes. Donc voilà, ces petits groupes petit à petit sont devenus des communautés en ligne, des meet-ups, et donc maintenant il y en a environ...
Des meet-ups, c'est-à-dire des rencontres, hein.
C'est des rencontres, voilà, les meet-ups, ça veut tout simplement dire que les gens se connaissent d'abord en ligne avant de se connaître physiquement.
Donc en 2007, Kevin Kelly et Gary Wolf ont un petit peu conceptualisé cette chose qui était en train d'arriver, ils étaient assez visionnaires, on peut le dire, mais ce mouvement de mêler la technique à sa vie, mesurer sa vie en permanence, il y avait des précurseurs. Il y avait des précurseurs au MIT, il y a eu plusieurs précurseurs qui ont commencé à marcher avec des ordinateurs sur eux. La grande figure de ça, c'est Steve Mann.
Exactement, donc c'est un chercheur au MIT qui notamment portait donc un sac à dos avec un moteur de 3 kilos sur le dos et des petites lunettes qu'il mettait au-dessus de lui et qui lui permettaient de visualiser en réalité augmentée plein de données, notamment sur ses pas ou son activité. En fait, ils s'inscrivent dans le courant de la cybernétique, et donc est une science théorisée par Norbert Wiener, et donc en fait tout leur propos était de dire l'homme est un système d'information qui évolue dans un monde fait d'informations. Donc nous maintenant on dirait peut-être data parce que c'est plus chic, mais parallèlement à la démocratisation des PC qui étaient donc des personal computers, des ordinateurs personnels, lui en fait il a créé une science qui s'appelait la wearable, en gros ce qu'on appelle aujourd'hui les technologies métables, donc les bracelets connectés, etc. Mais donc lui
transportable, en fait,
transportable, hein. Ouais,
transportable,
exactement. Et donc lui plutôt que les PC, en fait il militait, parce que c'était quand même quelque chose d'assez défendu de sa part, il militait donc pour des wearable computers, en fait, c'est-à-dire
il avait senti dit que le PC, l'ordinateur immobile, c'était une transition et qu'il fallait commencer déjà à explorer l'ordinateur qui épouse le corps, qui accompagne le corps en permanence. Il avait vu arriver en fait ce qu'incarne aujourd'hui le téléphone intelligent, qui est l'ordinateur dans la poche. Camille.
Et c'est vrai qu'il y a une logique aussi dans sa démarche. Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le life logging, l'idée de en fait d'archiver sa vie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui date de la fin du 20e siècle.
La grande figure, c'est Gordon Bell, donc voilà. Du life logging, qui était lui aussi un ingénieur du MIT, qui portait en permanence sur lui, pendant une dizaine d'années, il a porté en permanence une caméra, il a tout enregistré.
Exactement, donc ça représente des terras de données incommensurables, et il raconte comment il a d'énormes difficultés à essayer de trouver du sens dans tout ce qu'il a mesuré, parce que par exemple il mesurait le nombre de fenêtres qu'il ouvrait sur son ordinateur, le nombre d'onglets qu'il ouvrait sur son navigateur pour savoir quelle journée il avait le plus navigué, etc. Mais donc il mesurait vraiment tout, et c'est vrai que ce souci de la mémoire totale, c'est-à-dire de tout cataloguer, tout indexer, c'est un petit peu d'ailleurs la même qui est aux origines de l'internet. Il y a plusieurs expérimentations de où on essayait de créer une bibliothèque universelle. C'est ça l'utopie d'Internet à la base, c'est de vouloir tout indexer. Donc là, le quantified self, c'est ce qu'on essaie de montrer aussi, c'est qu'il ne faut pas uniquement voir ça sous l'aspect petit gadget que j'utilise quand je vais courir, mais ça s'inscrit vraiment dans l'histoire du numérique.
Le souci de tout indexer, mais aussi le souci de tout partager, c'est aussi ça une des spécificités du quantified self. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, j'ai utilisé déjà des applications qui me permettent de mesurer ma course, et à aucun moment j'ai eu envie de partager sur les réseaux sociaux, j'ai couru telle distance, etc. Alors que toutes les applications de Quantified Self pratiquement permettent de partager très très facilement et parfois même de manière automatique ce qu'on a fait. Mais il y a quand même une pratique, quand on regarde Twitter, quand on regarde Facebook aujourd'hui, il y a des personnes qui partagent leur vie en termes de données, leur activité, etc. sur ces réseaux.
Ben exactement, il y a en gros deux types de cas. Le premier, c'est un partage assez lâche, on va dire, sur les réseaux sociaux, juste pour montrer à ses amis que je suis allé courir, je suis actif, je fais quelque chose, j'essaie de m'améliorer, qui est donc vraiment très incité par évidemment les marques. Et il y a aussi donc des communautés beaucoup plus instituées, beaucoup plus fortes, puisque tout se fait en ligne. Par exemple, on parlait des communautés Nike Plus en ligne, mais on pourrait en citer d'autres, où là l'idée c'est de créer des communautés d'utilisateurs qui eux ils mesurent le même type de données. Donc ils peuvent évidemment se comparer. Donc, le quantified self, c'est aussi une comparaison énorme. Donc pour pouvoir se comparer à une norme, autant le faire avec des gens qui font la même chose que soi. Et donc les marques ensuite ont pris de plus en plus le pas, et maintenant ça devient vraiment un jeu presque de se comparer à d'autres, avec des challenges pour savoir cette semaine qui dans cette application a couru le mieux.
En fait, ce sont des réseaux sociaux. Ces applications se structurent comme des réseaux sociaux.
Et l'homme est un média. Hein.
Et l'homme est un...
Notre corps devient un média, notre maison devient un média, notre ville devient un médias, etc.
C'est ça. Mais après, c'est vrai que ça peut paraître un peu superflu ou simplement du partage de sa petite course du matin ou du week-end, mais en fait, on peut penser aussi à des applications qui vont beaucoup plus loin, et typiquement, je pense à Chronology, qui est en fait une sorte de réseau social dédié aux personnes qui sont atteintes de la maladie de Crohn, et en fait, c'est vrai que ça permet de se comparer, mais ça permet aussi de communiquer, en fait, pour des gens qui doivent vivre une maladie, où on citait tout à l'heure des diabétiques. C'est aussi des réseaux sociaux qui permettent donc de partager les données et de s'encourager à des moments où ça peut être plus difficile, et là ça prend une mesure beaucoup... Enfin, c'est vrai qu'on voit les choses complètement différemment quand on pense à ça.
Votre troisième chapitre s'intitule « Le quantified self va-t-il révolutionner la santé ?» Bien entendu, donc le quantified self touche à la santé, touche au bien-être, c'est un des moteurs de ces pratiques. Il existe d'ailleurs des milliers de startups dans le monde qui tentent de conquérir ces nouveaux territoires. Il y en a bien sûr à Paris, où le programme Paris & Co propose un incubateur de jeunes pousses spécialisés dans la e-santé. Raphaël Constant est allé à la rencontre d'Alexandre Plé, fondateur d'Human Life, un carnet de santé connecté pour toute la famille. Human Life a été lancé en 2011 et a été incubé à Paris & Co.
Le service Human Life, c'est effectivement un peu plus large qu'un carnet de santé, puisque c'est un tableau de bord de santé et de bien-être. Donc vous retrouvez les rubriques sur les dents, les yeux, les oreilles, les rendez-vous médicaux, les interventions chirurgicales, mais aussi les vaccins, la liste des médicaments. Vous avez la possibilité aussi, au travers d'un agenda médical, de suivre vos rendez-vous, et on se permet de vous rappeler les rendez-vous obligatoires. La porte d'entrée d'Human Life se fait aujourd'hui au travers d'un petit quiz, un petit questionnaire personnalisé, où on vous demande la date de votre dernier rendez-vous chez le dentiste, on vous demande si vous avez des enfants, de nous donner leur date de naissance et leur prénom de manière à tout de suite initier le carnet de santé de votre ou vos enfants. Est-ce que vous êtes sportif? Combien de temps de sport? Et au travers de toutes ces questions, on commence à vous profiler et à construire votre tableau de bord. Une fois que vous avez terminé ce quiz d'entrée qui est assez rapide hein, sur 8 thèmes principaux, vous arrivez donc effectivement sur votre tableau de bord thématique. Si vous avez répondu oui à tabac, bah vous allez vous retrouver avec le module tabac qui va vous aider à vous suivre sur votre consommation de tabac dans une optique, pour l'exemple du tabac, de vous faire arrêter de fumer ou au minimum réduire votre consommation. Démarche, c'est vraiment de promouvoir cette notion d'automesure dans une optique de mieux vivre. Savoir que vous dormez pas assez, qu'il y a des évolutions sur votre temps de sommeil, que ça peut générer du stress, que le fait de ne pas marcher assez, parce que c'est important aussi de préciser que dans Human Life, on centralise les différents types d'objets connectés. Donc vous avez votre tracker d'activité, vous pouvez avoir une balance Wi-Fi, vous pouvez avoir un tensiomètre, les thermomètres connectés, enfin tous les objets connectés disponibles aujourd'hui sur le marché, en tout cas pour la plupart d'entre eux, on peut les centraliser sur Human Life. Et c'est la somme de toutes ces données-là qui nous permettent de vous donner un conseil, et je reprendrai le terme, le bon conseil au bon moment. Aujourd'hui, le modèle économique, on est sur un modèle freemium, donc les utilisateurs, un peu comme Deezer, vont bénéficier d'une partie du service gratuitement, et pour des services un peu plus qualitatifs, notamment sur du conseil et du coaching, vont devoir s'acquitter de quelques euros par mois pour bénéficier de ces services.
Toutes les informations personnelles sur la santé de l'utilisateur sont donc regroupées sur votre plateforme. Comment sont-elles retransmises pour que l'utilisateur puisse s'en servir pour évoluer ?
Alors, tout à l'heure, j'utilisais le terme d'algorithme. Donc, au travers de votre utilisation de la plateforme, notamment l'étape du quiz d'entrée, on commence à vous profiler. Et j'aime pas le terme, mais ce profilage permet au moteur de règles de Human Life de vous donner le bon conseil au bon moment, en fonction des thèmes, en fonction de votre profil. On s'adresse pas de la même manière à une jeune de 18 ans qu'à un homme de 65 ans avec des problèmes cardiovasculaires, par exemple. Donc, tous ces conseils-là sont validés en amont par les membres de notre comité d'éthique. La sécurité est le point très fort de Human Life, puisque nous avons choisi dès le départ d'être hébergés chez un hébergeur agréé de données de santé, qui est une norme en France particulièrement contraignante, mais qui garantit la non-utilisation, je dirais, de la donnée de santé et de la donnée personnelle. Et très clairement, les données de santé appartiennent avant tout aux patients.
C'était Alexandre Play, fondateur de l'application Human Life, ce carnet de santé, ce tableau de bord virtuel. Vous avez écouté attentivement, vous souhaitez réagir, Camille ?
Bah, c'est vrai que concrètement, je pense que pendant l'écoute, on s'est tous les deux dit avec Pierre que c'était quand même particulièrement utile comme outil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on garde pas forcément de traces de tous ces rendez-vous et autres. Après, qui sont les... J'ai une question du coup au fondateur de cette start-up, c'est qui sont les membres de ce comité d'éthique ? Parce que bon, ça, on n'en sait rien. Et après, c'est vrai que...
L'idée, évidemment, c'est qu'on ne peut pas remplacer un médecin. C'est-à-dire que les algorithmes, un comité d'éthique, etc., et des conseils personnalisés d'une application ne peuvent pas remplacer un médecin. Non.
Et c'est Pierre.
Camille ou Pierre ?
C'est une des problématiques générales du quantified self. Au-delà, c'est un exemple qui l'illustre très bien. C'est la prétention à la vérité, tout simplement, de la donnée. En plus, ce sont des chiffres. Alors, voilà, les faits sont têtus, les chiffres encore plus. On ne peut pas lutter contre ça. Donc, quand on parle de santé, ça peut être un problème de faire croire à l'utilisateur. Là, je ne dis pas que c'est le cas du tout, hein, mais de faire croire à l'utilisateur que les données qu'il va avoir sur son smartphone, il faut qu'il les prenne pour argent comptant et qu'il se passe d'aller voir un médecin. Donc,
voilà. Là, en l'occurrence, cette application vous rappelle vos rendez-vous chez vos médecins.
Non, bien sûr.
Il y a un potentiel énorme d'accompagnement des individus dans leur vie quotidienne. Il y a aussi un potentiel énorme d'accumulation de données, avec évidemment des enjeux de vie privée auxquels on en est de plus en plus conscient. Et d'ailleurs, immédiatement, les créateurs de ces services aujourd'hui expliquent qu'ils n'utilisent pas les données, qu'ils ne les vendent pas parce qu'on pourrait les vendre, parce que c'est intéressant en fait, en accumulant des données comme ça sur la santé de personnes atteintes de certaines maladies, pour les applications qui regroupent des malades d'une certaine maladie, on peut faire évoluer la science, on peut faire évoluer les assurances, on peut faire évoluer toutes sortes de choses. Il y a un enjeu énorme là.
Oui, c'est sûr que ça permet de dégager des tendances. Bon, là, c'est si on commence à rassembler les données de tout le monde, mais c'est vrai que même à l'échelle individuelle, on voit les prémices en France de l'utilisation des données personnelles auto-mesurées par des organismes d'assurance, comme l'a testé AXA. Donc là, c'est vrai qu'on passe un nouveau cap et la CNIL s'en inquiète beaucoup. Et
la CNIL qui donc vérifie un peu que tout ce qui se passe dans l'univers du numérique respecte la vie privée.
Voilà, donc et c'est vrai qu'ils ont établi une liste de recommandations là-dessus, parce que le risque, en fait on voit le potentiel, c'est que si une assurance voit que vous êtes très sportif, que vous bougez beaucoup, alors ils vont peut-être vous proposer des tarifs préférentiels chez eux, mais dans ce cas-là on brûle le voile d'ignorance qui permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et qui fait que tout le monde cotise pour tout le monde ou paye pour tout le monde. Là on met tout ce système-là à plat et ça peut plus fonctionner.
Les conseils de la CNIL d'ailleurs, c'est donc d'utiliser un pseudonyme plutôt que d'utiliser son vrai nom, pas de partage automatique, donc dès qu'une application vous propose de partager automatiquement sur les réseaux sociaux, vous désactivez cette fonctionnalité.
Surtout pas de Facebook Connect.
Ouais. Partager avec des contacts proches quand on veut partager ces données, récupérer, effacer les données quand un service s'arrête ou qu'on arrête d'utiliser un service. Donc des conseils de bon sens finalement.
Exactement, et puis il y a aussi tout le volet recommandations vis-à-vis des startups, et il y a 7 principes ou 9 principes peut-être même d'ailleurs qui gouvernent la gestion des données personnelles par ces startups, dont celle de communiquer sur exactement quelle utilisation vont être faites de ces données, le principe de finalité, c'est-à-dire je ne recueille uniquement que les données dont j'aurai besoin pour mon service, voilà, et il y en a d'autres, mais encore une fois, là, c'est difficile parce qu'en même temps, la donnée, c'est la matière première de ces services-là. Et si on veut créer des services intelligents qui donnent vraiment du sens et qui répondent véritablement à leur promesse d'apporter du mieux-être dans la vie des utilisateurs, il faut aller assez loin dans l'algorithmique et dans la collecte de données. Donc il y a l'enjeu données dont on est en effet entouré aujourd'hui. Il est vraiment particulièrement vif pour le quantified self, d'autant qu'il s'agit de données assez intime, on parle là de santé.
À tel point que dans le livre, vous demandez quand les médecins prescriront eux-mêmes des données à leurs patients.
C'est vrai qu'on on l'évoque parce que c'est déjà quelque chose qui est mis en œuvre en fait aux États-Unis, où du coup l'autorité, donc qui s'appelle la Food and Drug Administration, s'est saisie en fait du dossier et a décidé du coup de certifier ils étaient entre 10 et 15 applications là aujourd'hui, et donc il y a un petit catalogue comme ça qui est proposé maintenant aux médecins qui peuvent prescrire littéralement des applications, donc qui peuvent les aider différents malades à vivre leur maladie, et qui permet aussi aux médecins de faire des rappels, de suivre en fait le patient à distance et de voir les tendances qui se dégagent, de voir s'il y a quelque chose qui commence à être problématique ou s'il se rend compte qu'il devrait être alerté de quelque chose, et il peut faire des push, donc des petites notifications sur le smartphone du patient pour lui rappeler de prendre ses médicaments ou lui dire vous avez un rendez-vous à telle heure chez moi, surtout ne l'oubliez pas, ou alors je vois qu'il y a telle ou telle tendance qui se dégage de vos données, venez me consulter, il y a quelque chose qui pose problème.
Il y a quelque chose de paradoxal en fait avec le quantified self que vous soulignez dans le livre, c'est que quand on observe ce phénomène, on peut être un peu inquiet, se dire mais ces gens sont fous de collecter autant d'informations sur leur vie, etc. D'autant plus qu'on est dans un contexte où des milliards et des milliards de gigaoctets d'informations sont collectées sans qu'on le sache sur nos vies quotidiennes. Mais en fait, ce que vous expliquez dans le livre, c'est que les personnes qui font ça finalement se font partie des seules qui le font elles-mêmes, qui ont choisi de le faire et qui gèrent cette réalité, et donc que finalement le quantified self est peut-être aussi une réponse à ce déluge de données où on est passif. Là, il s'agit de personnes actives qui savent ce qu'elles sont en train de faire.
Voilà, le quantified self, c'est vraiment un discours d'empowerment, c'est un mot qu'on entend souvent dans le numérique, donc de reprise.
Empouvoirment,
on n'a pas encore trouvé vraiment le...
C'est bien empouvoirment.
C'est bien empouvoirment, c'est joli. Donc ce discours, celui de l'empouvoirment des individus, donc de la reprise du contrôle, et c'est tant les pionniers du quantified self, on parlait de cybernétique tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est l'homme information dans un monde d'information essaye de maîtriser cette information pour pouvoir avoir sa place dans le monde. Tout le discours également sur la société de surveillance avec les entreprises, les institutions, l'État qui peuvent disposer d'un regard qui nous surplombe sur nous-mêmes. Le quantified self, au contraire, ça vient de l'individu qui est en capacité de pouvoir maîtriser ses propres données.
C'est la sous-veillance.
La sous-veillance, exactement, le contraire de la surveillance. Et en effet, c'est tout de même paradoxal avec les usages qui en sont faits, tout l'écosystème économique qui est né évidemment après, et qui, il y a évidemment des récupérations, il y a évidemment des discours marketing. Tout l'enjeu, c'est de savoir si ce discours va être trahi ou non. Mais en tout cas, le mouvement Quantified Self, par exemple, continue, même s'il est très proche de beaucoup d'entreprises, continue à promouvoir l'accès aux données. Ils ont fait une énorme campagne l'an dernier sur l'accès par les utilisateurs à leurs propres données.
C'est la conclusion du livre, hein, d'ailleurs. Vous appelez chacun, ou vous souhaitez que les individus, ou vous constatez que les individus deviennent en fait des entrepreneurs de leurs propres données.
C'est exactement là. C'est en effet plus un constat qu'un souhait, en tout cas. Dans une société voilà, de transparence totale où chacun donne ses données sur une grande place publique virtuelle, si moi je ne le fais pas, ça devient évidemment suspect. Donc il y a en effet tout un travail pour accompagner ce mouvement vers des individus qui gèrent leurs données comme un portefeuille. Enfin voilà, tout un enjeu d'accompagnement, de pédagogie notamment.
Je voulais pas demander, mais est-ce que vous êtes tous les deux utilisateurs d'applications et de Quantified Self? Est-ce que vous quantifiez vos vies,
Pierre? Moi pas du tout. J'aime bien la notion de hasard en général, donc.
Je l'ai été et j'ai abandonné. Bon, après, en fait, comme on l'explique dans le bouquin, il y a finalement des gens qui se mesurent plus dans une logique de surveillance, d'autres dans une logique de routinisation et d'autres
de performance.
Et de performance. Donc ça, c'est en plus donc une chercheuse de Orange Labs qui l'avait un peu théorisé, on va dire.
Anne-Sylvie Farabeau.
C'est ça. Et en fait, c'est vrai que moi, c'était plus dans la logique de routinisation. Et finalement, au bout de 3 mois, j'ai testé différents outils. Et au bout de 3 mois, je me suis lassée, en fait.
Routinisation, c'est-à-dire qu'on veut voir un peu ce qu'on fait chaque jour. Et une fois qu'on l'a vu, ben, on n'a plus vraiment besoin de s'autocontrôler ou de s'automatiser.
Je me demandais, est-ce que j'atteins certains seuils symboliques, les fameux 10 000 pas par jour, est-ce que je les fais ou non? Finalement, on se rend compte que quand on vit à Paris et qu'on marche dans le métro et qu'on doit courir et que finalement, on les atteint très vite, les 10 000 pas. Mais c'était plus dans cette logique-là. Et je les ai abandonnés parce que finalement, mettre des chiffres en fait sur mes actions, je ne trouvais pas finalement que ça apportait grand-chose à ma vie.
C'est peut-être un signe aussi, ça, que vous deux, qui avez donc quand même beaucoup travaillé sur le sujet, vous avez testé des centaines d'applications, lu des dizaines, des centaines d'articles, de livres sur le sujet, que vous soyez tous les deux soit abandonnistes, soit pas intéressés. Est-ce que c'est un signe, ou est-ce que, comme vous le suggérez dans le livre, c'est un phénomène qui va gagner en ampleur dans les années à venir?
Je pense qu'il y aura, à mon avis, deux types d'utilisation. Une qui est vraiment dans l'utilité, avec un besoin qui préexiste, donc c'est-à-dire des communautés de patients qui là pour le coup voilà, il y a une véritable utilité à ces communautés-là, et puis ensuite des besoins qui ne sont en fait pas véritablement des besoins ou des microservices. On en a eu quelques exemples avec des utilisations assez ponctuelles, mais le fait qu'en effet que dans le dernier iOS il y a une application santé qui mesure ces données-là, le fait que il y ait certains vélos qui maintenant dès la vente ont déjà un petit capteur avec plusieurs niveaux de mesures assez poussées, voilà, avec tout ce mouvement qui va vraiment banaliser l'automesure, au final ça deviendra quelque chose peut-être de véritablement commun, comme regarder de temps en temps son Facebook alors qu'en fait on n'a pas vraiment grand chose à y trouver. Peut-être qu'on se mettra sur son application santé et puis on verra, ah oui tiens, aujourd'hui j'ai fait 8000 pas.
Camille Jiquel, Pierre Guillot, merci d'être venu dans l'atelier des médias. Je rappelle le titre de votre livre, c'est tout simplement Quantified Self, les apprentis sorciers du moi connecté. Plus d'infos, des liens sur le site de l'atelier des médias. À bientôt.
Merci, à bientôt.
L'atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
You're tuned to the international sound.
Dernière séquence de l'émission et grand retour de Marie-Catherine Beuth dans l'atelier des médias. Bonjour Marie-Catherine.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu veux aujourd'hui nous parler de la tablette et te demander si ça ne redevient pas, la tablette, l'espoir de la presse.
Souvenez-vous, en 2010, Apple avait annoncé avec fracas son iPad et plusieurs autres fabricants informatiques ont ensuite lancé ce nouveau terminal mobile. On a beaucoup parlé de la tablette dans ces années-là en se disant que ça allait devenir un nouveau canal de distribution de contenu numérique. Et puis tout ça s'est un petit peu tassé et même depuis quelques mois, voire presque un peu plus d'un an, Les ventes de tablettes ont l'air de stagner, voire de reculer, donc on se demandait, tiens, mais que devient la tablette? Et puis là, la semaine dernière, le journal québécois La Presse a annoncé qu'ils arrêtaient l'édition imprimée quotidienne pour lui préférer une version pour tablette.
Est-ce que c'est un cas isolé?
Alors, on voit plusieurs autres exemples d'éditeurs de presse s'emparer de ce terminal que l'on croyait has-been. Au Canada toujours, le Toronto Star a annoncé récemment le lancement d'un nouveau titre 100% tablette et a embauché, je crois, 75 personnes pour s'en occuper. En France, le Figaro a aussi lancé une appli spéciale iPad pour produire et proposer des mini hors-série au format magazine. Et enfin, la presse croit même avoir trouvé un modèle économique avec sa tablette parce que la presse propose sa technologie développée pour son propre magazine iPad à d'autres éditeurs de presse, pariant donc clairement sur le fait que d'autres journaux troqueront peut-être le papier pour la tablette dans un futur assez proche.
Est-ce que tout cela préfigure pour toi la fin de format papier pour la presse quotidienne ?
C'est une question qu'on peut en effet se poser. Et en effet, la navigation sur tablette se rapproche souvent du feuilletage d'un journal. Cela permet donc à des éditeurs de presse de prendre le virage numérique sans être trop déboussolés dans la manière de travailler et dans la manière de proposer ses contenus. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que ce n'est pas juste une étape intermédiaire, une sorte de prolongation d'un destin papier voué à décliner, dès que des Facebook et des Snapchat auront remplacé notre accès à l'information? On sera alors sur des formats très courts, format vertical, format vidéo. Être sur un iPad à ce moment-là n'aura pas tellement plus d'intérêt que de feuilleter un magazine papier.
Merci Marie-Catherine. Je rappelle qu'on peut te lire sur ton blog Étreinte Digitale et qu'on peut réécouter, relire toutes tes chroniques également sur ton blog de l'Atelier des Médias. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
RFI. Rejoignez la communauté de l'Atelier des Médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 394 de l'Atelier des Médias proposé par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Pour nous réentendre, c'est sur rfi.fr, soundcloud.com et sur toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir et de vous mesurer, pourquoi pas, ou de vous déplacer simplement dans la ville ou la campagne, vous faites bien partager la pratique du podcast autour de vous et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Ben, ça continue sur Internet.